Vous êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale, il est 3h30 en temps universel, une heure de plus ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI, Simon Bourg-Tambour.
Nous sommes ensemble pour une demi-heure au menu des reportages, des entretiens et des analyses pour décrypter l'actualité africaine. Et pour commencer, le journal avec à la une les versions contradictoires des résultats provisoires de l'élection municipale à Antananarivo. Le candidat du régime est arrivé en tête selon les résultats lus publiquement par la CENI. Pourtant, ce week-end, le site internet de la Commission électorale nationale indépendante a un temps donné la faveur à l'opposition. Un piratage dénoncé par l'institution, mais certains mettent en doute la sincérité du scrutin. En Ouganda, l'opposant Kizza Besigye a pu recevoir la visite de sa femme en prison. Dans cette édition, nous entendrons son témoignage sur les conditions de détention de son mari. À suivre également dans ce journal, reportage dans un camp de déplacés dans la banlieue de Goma, en RDC. Des centaines de milliers d'habitants de la province du Nord Kivu ont été forcés à l'exode depuis 3 ans et le début des affrontements entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise. Un piratage du site internet de la Commission électorale nationale indépendante à Madagascar. Voilà l'explication donnée par la CENI après la publication ce week-end de résultats en faveur de l'opposition dans la course à la très disputée mairie d'Antananarivo. La veille, lors d'une cérémonie officielle, c'était vendredi, la CENI avait pourtant proclamé la victoire provisoire de la candidate du régime. Un couac qui amène certains malgaches à douter de la sincérité du scrutin. De son côté, la Commission électorale nationale indépendante a suspendu son site internet et annoncé une enquête. Pauline Letroquier.
Vers 19h ce samedi soir, la publication est venue perturber la sérénité du camp présidentiel dont la candidate avait été donnée la veille confortablement en tête à Antananarivo. Sur un document issu du site officiel de la CENI, relayé massivement en ligne, l'opposant Toud Ravalmanane apparaît finalement gagnant avec plus de 42% des voix. Il a fallu moins d'une heure à la CENI pour supprimer le document, puis dénoncer aussitôt un piratage de son serveur, soit Anjama Routfik, son rapporteur général.
C'est une volonté de déstabilisation parce que Tana, c'est un lieu, c'est un capital stratégique sur le plan politique à Madagascar. Nous rassurons le peuple malgache que la décision des urnes, c'est ce que nous avons publié. La vérité, c'est la victoire au candidat Ralar Manatou dans la circonscription de Tanaville.
Depuis l'ouverture d'une enquête, un technicien informatique du TIM, le parti de Toud Ravalmanane, a été arrêté dimanche matin. Hier soir, il était retenu au service de cybercriminalité de la gendarmerie pour publication mensongère. Il avait publié sur Facebook les résultats donnés en faveur de l'opposant. Pour le chef de l'opposition parlementaire, Sitène Ranjana Soulniak, cette situation ne fait que prouver l'irrégularité du processus électoral.
This is just a joke.
C'est une farce de parler d'un piratage. La vérité est juste apparue soudainement samedi et ils veulent le cacher. Toutes les fraudes que nous avons vues, la CENI en est complice.
L'accès au site de la CENI a été entièrement suspendu alors que la publication des résultats provisoires pour les autres provinces de l'île se poursuit cette semaine. Pauline Troquier, Antananarivo. RFI.
À des résultats provisoires qui devront donc ensuite être confirmés définitivement par les tribunaux administratifs de Lille avant janvier 2025. En Ouganda, l'opposant Kizza Besigye a pu recevoir la visite de sa femme en prison. Winnie Binyima, épouse de Kizza Besigye et directrice exécutive de l'ONU SIDA, avait alerté sur les conditions d'incarcération de son mari. L'opposant ougandais, enlevé au Kenya en novembre dernier, puis extradé, est soupçonné de menace à la sécurité nationale. Il est accusé d'avoir sollicité un soutien logistique en Ouganda, en Grèce et dans d'autres pays dans le but de compromettre la sécurité nationale du pays. Mais Kizza Besigye ne compte pas baisser les bras, martèle son épouse.
Je l'ai vu et il tient le coup. C'est quelqu'un qui sait endurer, qui sait persévérer. Quand ils ont annoncé qu'ils interdisaient les visites, cela m'a beaucoup inquiétée. J'avais prévu de m'y opposer, mais heureusement, ils ont changé d'avis et j'ai pu rendre visite à mon époux. Dans tous les cas, ce n'est pas une situation normale. Tout d'abord, il a été enlevé au Kenya. Les personnes qui l'ont enlevé sont des agents de sécurité du gouvernement ougandais. Ils l'ont conduit sur plus de 500 kilomètres et l'ont jeté dans une prison militaire. Lorsque nous avons protesté, ils l'ont transféré dans une prison civile, mais ils l'ont tout de même inculpé devant un tribunal militaire, alors que la loi stipule bien que l'on ne peut pas juger un civil devant un tribunal militaire. Donc, dans toute cette affaire, que ce soit la façon dont ils l'ont arrêté, la façon dont ils l'ont maintenu en prison, le tribunal où ils l'inculpent, tout est irrégulier, illégal et criminel.
irregular, illegal and criminal.
Et le procès de Kizza Besigye est lui est prévu pour le 7 janvier prochain. Maurice remet en cause l'accord avec le Royaume-Uni sur les îles Chagos. Le gouvernement mauricien a exprimé des réserves sur les termes du projet d'accord avec Londres sur la souveraineté des Chagos. L'archipel qui abrite la base américaine de Diego Garcia avait été détaché de Maurice par la Grande-Bretagne juste avant l'indépendance en 1968. Le différend territorial, vieux de 56 ans, semblait en voie de résolution, mais finalement c'est un retour à la case départ. Les précisions depuis Port-Louis avec Abdoulaye Rally.
Au Parlement, le Premier ministre a déclaré que l'accord politique n'apporte pas les bénéfices attendus pour Maurice. Cette situation a conduit à de nouvelles négociations. La Grande-Bretagne a dépêché à Maurice Jonathan Powell, conseiller à la sécurité nationale, et Harriet Matthews, directrice générale pour l'Afrique. Deux enjeux majeurs sont en discussion. Le premier concerne la souveraineté de Maurice sur les Chagos. Londres reconnaît cette souveraineté, mais propose que Maurice cède pour 99 ans ses droits sur Diego Garcia, où se trouve la base américaine. Pour l'équipe de Navin Ramgoolam, ce compromis pose des problèmes juridiques, car la constitution mauricienne intègre les Chagos dans son territoire. De plus, la Cour internationale de justice a déclaré illégale la présence britannique sur l'archipel. Céder une partie du territoire à la Grande-Bretagne contreviendrait donc à cette décision. Le second enjeu majeur concerne les redevances d'occupation du territoire. Le montant et la rétroactivité du loyer sont en négociation. Selon le Premier ministre mauricien, Londres souhaite finaliser cet accord avant l'installation de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier. Abdoulaye Rally, Port-Louis, RFI.
RFI, 4h36 minutes à Kinshasa, une heure de plus à Goma, à la République démocratique du Congo, où les affrontements entre l'armée appuyée par les milices Wazalendo et les rebelles du M23 se sont poursuivis tout le week-end. De violents combats dans le territoire du Lubero, l'armée a engagé pour la première fois des hélicoptères. Des affrontements entre rebelles soutenus par le Rwanda et les troupes gouvernementales qui durent depuis 3 ans et qui ont forcé beaucoup de Congolais à l'exode. Des centaines de milliers d'habitants de la province du Nord-Kivu, déplacés de guerre, se sont installés dans la périphérie de Goma. Dans les camps de déplacés, malgré l'aide des ONG, il est toujours aussi difficile de trouver à manger. Reportage Coralie Piret.
Le centre de santé de Roussayo 1 est bondé en cette matinée de décembre. Naïssi vient pour faire vacciner son bébé. Elle habite ce camp de déplacés depuis février 2023.
Pour vivre, nous allons travailler dans les champs pour d'autres personnes. Tu vois comme nos mains sont devenues abîmées ? En échange, on nous donne 3000 francs ou 5000 francs par jour. Et c'est dur de trouver à manger avec ça. Alors parfois, nous partons chercher du bois dans la forêt que nous vendons ici pour pouvoir acheter de la nourriture. Parfois aussi, les gens pour qui nous travaillons nous donnent des patates douces à manger.
Plusieurs ONG, dont Alima Roussayo, appuient et apportent une assistante gratuite aux déplacés. Une aide très souvent insuffisante. Alors pour vivoter, certains vendent des unités de téléphone sur le bord de la route. D'autres passent le temps en regardant des films indiens traduits en swahili, la langue locale. Norbert est arrivé il y a 9 mois en provenance de Rutshuru.
Je faisais la cordonnerie et je cultivais des tomates, des haricots, même les maïs. Ça m'aidait beaucoup vraiment, donc je n'ai pas manqué à manger là où j'étais à la maison. Si la guerre termine là-bas, vraiment, je ne peux pas souhaiter de rester ici.
Car dans les camps, impossible de cultiver faute d'espace disponible. Difficile de savoir avec précision combien sont les déplacés aux portes de Goma. Probablement encore des centaines de milliers. Même si la guerre n'est pas terminée, certains ont fait le choix de rentrer chez eux. Coralie Pierret, de retour de Goma. RFI.
Et dans ces camps de déplacés, les conditions de vie et de promiscuité entre déplacés sont favorables au développement du virus Mpox. Alors que l'épidémie de variole du singe continue de se propager, l'OMS a décidé le mois dernier de maintenir son plus haut niveau d'alerte. Mais dans sa lutte contre le virus, le continent va bientôt pouvoir utiliser un test PCR 100% africain. Mis au point et produit au Maroc, les premiers kits de détection seront livrés d'ici la fin du mois. Un test PCR recommandé par l'agence sanitaire de l'Union africaine, l'Africa CDC. Mathias Reynal s'est rendu dans les locaux de la start-up qui fabrique le test.
Moldiag a installé son site de production à une vingtaine de kilomètres de Rabat. Avant de pénétrer dans la zone où sont élaborés les tests PCR Mpox et pour éviter toute contamination,
on va porter des équipements de protection individuelle.
Abdelhadi Moumène est le directeur du centre de kit de diagnostic de la Fondation Massir, un centre de recherche qui dépend de l'université Mohamed VI Polytechnique et qui a développé le test. Il est également le fondateur de la start-up Moldiag qui assure la production.
C'est une fierté parce que nous sommes les premiers en Afrique à développer et à commercialiser un kit 100% africain, je dirais.
Le test a obtenu l'approbation des autorités sanitaires congolaises. Les premiers kits seront bientôt envoyés en RDC, au Burundi et en Ouganda.
On est en train de préparer leur commande et on va pouvoir les livrer avant la fin de cette année-là. On a une capacité de 6 millions de tests par mois.
Nawal Sharaibi est la directrice générale de la Fondation Massir, également directrice de Moldiag.
Notre ambition, c'est de continuer dans cette voie et de réussir à mettre au point des kits qui vont aujourd'hui répondre aux attentes, aux besoins du continent africain. Parce que malheureusement, il y a certaines maladies qui ne touchent que le continent africain et qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment prises au sérieux.
L'Agence sanitaire de l'Union africaine a salué la mise au point de ce test Mpox marocain, une avancée majeure assure l'organisation vers l'autosuffisance des systèmes de santé publique africains. Mathias Reynal, de retour de Tamesna, RFI.
Un moratoire de 2 ans sur la circoncision traditionnelle en Afrique du Sud. C'est en tout cas le sens de la demande d'un chef traditionnel dans la province du Cap Oriental au sud du pays. Il faut dire que le rite d'initiation à l'âge adulte s'opère parfois dans des conditions hygiéniques rudimentaires. Depuis 1995, ces circoncisions traditionnelles ont fait des centaines de victimes en Afrique du Sud. 20 personnes sont mortes ces dernières semaines. L'objectif d'un moratoire serait donc de permettre une réflexion autour d'un meilleur encadrement et ce, pour permettre que cette pratique culturelle reprenne en toute sécurité. Valentin Hugues.
Les débats autour de la circoncision traditionnelle et de ses risques ne sont pas nouveaux. Récemment, l'Afrique du Sud a par exemple durci les normes d'hygiène après avoir promulgué des lois pour un meilleur encadrement. Mais les décès restent nombreux et pour la province du Cap-Oriental, il faut aller beaucoup plus loin avec des mesures extraordinaires, demande son chef traditionnel. Sa proposition, c'est donc un moratoire de 2 ans, s'asseoir autour de la table et régler ce problème une bonne fois pour toutes pour que ce rite d'initiation à l'âge adulte reprenne sans le moindre danger. Parmi les pistes, créer un tribunal spécialisé contre les pratiques illégales qui sont nombreuses et dangereuses, plus de pouvoir aux leaders traditionnels pour qu'ils soient de véritables acteurs dans la réglementation, un meilleur soutien médical dans chaque école d'initiation. Un appel à l'encadrement soutenu par le Conseil national de lutte contre le sida, pour qui il est important de faire évoluer les pratiques culturelles en s'intéressant davantage aux risques sanitaires. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Un mot de football et pour la première sur le banc de Souleymane Diallo, l'équipe nationale locale du Sénégal a été tenue en échec par le Liberia. Un but partout en match aller du deuxième tour des éliminatoires du CHAN 2025. Autre résultat hier, la Côte d'Ivoire qui affrontait le Burkina Faso. Ce sont les éléphants qui se sont imposés sur le score de 2-0. Le Togo, de son côté, n'a pas pu faire mieux qu'un match nul, un but partout face au Niger et ce, avant la trêve de Noël. Justement, dernier préparatif avant les fêtes de fin d'année. Au Kenya, Noël est plus qu'une célébration religieuse, c'est pour beaucoup l'occasion annuelle de se retrouver en famille. La capitale se vide de ses habitants qui retournent traditionnellement dans leur province d'origine. Précision de notre correspondante à Nairobi, Alban Tiroir.
Des files de voitures à l'arrêt sur les routes nationales, ce sont les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux pendant tout le week-end, car les Kenyans rentrent au village pour fêter Noël en famille. C'est le cas de Beverly Chocho. Elle a quitté Nairobi pour rejoindre le domicile de son père dans l'ouest du Kenya.
C'est la seule période de l'année où tout le monde, je dis bien tout le monde au sein de ma famille, met ses activités en pause et fait le déplacement. Ma sœur aînée arrive des États-Unis, mon frère et sa famille des Émirats Arabes Unis, mes cousins des États-Unis également, et d'autres endroits. Samedi, nous avons organisé une première cérémonie religieuse suivie d'une fête. Nous étions 150. C'est fou.
Pour le repas de Noël, une tradition au Kenya, le célèbre nyama choma, de la viande grillée dont raffolent les Kenyans. Chez Kamau Karanja, on a tué une chèvre et autour de sa viande, toute la famille est là.
On ne se rend même pas compte que nous sommes 40, car chaque personne est occupée à une tâche bien précise. Une personne s'occupe de l'abattage, une autre du barbecue, une autre de faire la vaisselle. Nous avons un accord tacite sur la répartition des tâches et ça fonctionne bien. Même l'achat de la chèvre est partagé. Généralement, le soir de Noël, après les festivités, les hommes qui gagnent leur vie se rassemblent et chacun est invité à contribuer près de $10.
La compagnie ferroviaire kenyane a augmenté le nombre de trajets sur sa ligne Nairobi-Kisumu pour la période des fêtes. La plupart des trains et avions affichaient complet ce week-end. Alban Tirwan, Nairobi, RFI.
RFI, il est 3h passées de 44 minutes en temps universel. Nous sommes encore ensemble pour une quinzaine de minutes. Avec à suivre les derniers préparatifs pour la fête de Noël. En RDC, premier pays catholique du continent, l'événement se prépare de longue date. Et ce, malgré un contexte sécuritaire précaire marqué par les attaques du M23. Reportage dans quelques instants aux côtés des chorales qui chauffent leur voix à Lumumbashi. Vos rendez-vous quotidiens, Afrique Économie et la chronique des matières premières. Il sera notamment question de la crise au Mozambique, alors que le Conseil constitutionnel doit annoncer aujourd'hui sa décision sur la validité des dernières élections législatives et présidentielles. Et puis dans 10 minutes, le journal dans les territoires français de l'océan Indien, où nous verrons que les Mahorais manquent encore de tout 8 jours après le passage du cyclone Chido.
Lubumbashi, 98 FM.
Lundi 23 décembre 2024, dernière ligne droite donc avant le réveillon demain et la fête de Noël ce mercredi. À l'occasion de la fête qui célèbre la nativité, des milliers de chrétiens vont se rassembler dès demain soir. Un événement qui se prépare de longue date en République démocratique du Congo, le plus grand pays catholique d'Afrique. Mais la situation sécuritaire jugée précaire oblige certains aménagements. À Lubumbashi, le culte du 24 ne sera pas célébré à minuit, mais plutôt entre 18h et 20h. Qu'importe, la fête s'annonce belle. Les chorales de la ville feront résonner leur voix dans les églises. Le reportage de Denise Maéo.
Dans l'enceinte de la paroisse Saint-Laurent de l'église catholique à Lubumbashi, une trentaine des chanteurs de la chorale Mwanga sont en pleine répétition. Cette chorale qui existe depuis 32 ans va animer la messe de Noël mardi soir. Hortense Kiboué, la présidente.
Nous chantons les 24 à 19h, juste.
Alors, le répertoire que vous avez préparé, c'est des nouvelles chansons, c'est des anciennes chansons?
Bon, il y a des nouvelles et des anciennes. Normalement, nous mélangeons pour ne pas perturber aussi les chrétiens, vu que nous chantons le 24, c'est une fois par an.
La tenue des membres de la chorale Mwanga fait également partie de la célébration de la fête de la nativité de Jésus, explique encore Hortense Kiboué.
Il y a toujours eu des tenues particulières, comme là, nous allons mettre des toges de la couleur blanche et verte.
Plus loin, la chorale de l'église pentecôtiste Portée des Cieux s'apprête surtout à mettre de l'ambiance au cours du culte de la nativité. Et c'est depuis 15 jours qu'on s'y prépare. Julie Mangaza, jeune d'une vingtaine d'années, est très motivée.
Il y aura vraiment beaucoup d'ambiance, beaucoup d'actions de grâce, beaucoup de temps de louange et d'adoration. Nous chantons par exemple « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. »
En l'église méthodiste unie, une des plus grandes églises de la ville, là aussi, toutes les chorales sont en effervescence. Une dizaine de jeunes de la paroisse Jérusalem apprennent un nouveau morceau. Sa guitare à la main, le maître des chants s'assure que tout le monde maîtrise non seulement la mélodie, mais aussi les paroles. Et Stéphane, secrétaire du groupe, pense surtout à la qualité du son.
Nous avons demandé qu'on revoie la sonorisation, puisqu'on sent que maintenant il y a trop d'écho et c'est ce qu'on veut éliminer. Que le jour de Noël, vraiment, nous puissions très bien passer cette journée sans qu'il y ait des difficultés.
Pour la plupart des choristes, chanter à la fête de la nativité est un événement à ne pas rater. Denise Maéo, Lubumbashi, RFI.
À Lubumbashi, où il est 5h passées de 48 minutes.
Simon Bourtembourg.
Un point sur les principaux titres de l'actualité internationale et cette journée de deuil national. Aujourd'hui en France, plus d'une semaine après les ravages du cyclone Chido, les populations sont invitées à marquer une minute de silence à 10h TU. Le bilan du cyclone, lui le plus violent depuis près d'un siècle, reste toujours inconnu. Au moins 35 morts pour l'instant ont été annoncés. Estelle Youssoufa, députée de Mayotte, sera tout à l'heure l'invitée de RFI. La France, par ailleurs, toujours sans gouvernement. L'entourage du Premier ministre fait savoir que les derniers réglages sont en cours. François Bayrou avait lui promis la nomination de son équipe avant Noël.
Port-Louis, 93.2 FM.
RFI, 7h passées de 49 minutes à Port-Louis. Et ce matin, Afrique Économie s'intéresse à la Mauritius Investment Corporation. Le nouveau gouverneur de la Banque de Maurice entend restaurer l'intégrité de l'institution après les irrégularités commises par l'ancienne administration. Créée en 2020 pour soutenir les entreprises en difficulté en période Covid, la Mauritius Investment Corporation aurait essentiellement servi à favoriser des industriels proches du pouvoir. Correspondance à Port-Louis, Abdoulaye Rali.
Cette filiale privée disposait d'un fonds de 2 milliards de dollars dont l'origine cependant était floue. Le nouveau gouverneur de la Banque de Maurice a apporté des clarifications à ce sujet. Rama Sitanen.
Un très bon économiste.
De très bons économistes affirment encore que la Banque de Maurice a converti 2 milliards de dollars pour obtenir 80 milliards de roupies. Ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit d'une simple création monétaire. Je peux vous assurer que la Banque centrale n'a procédé à aucune conversion de devises. L'argent a été créé électroniquement par une simple frappe sur un clavier.
La création monétaire a provoqué l'inflation et déprécié la roupie. Sur le principe, les économistes mauriciens considèrent cette mesure comme étant une solution de dernier recours, un remède de cheval pour sauver les industries durant la pandémie. Cependant, les modalités du fonds de 2 milliards de dollars interrogent. Est-ce vraiment le rôle d'une banque centrale de créer une entité privée comme la Mauritius Investment Corporation? Devait-elle réaliser des opérations privées telles qu'investir dans l'immobilier, acheter des actions et émettre des obligations? La réponse du nouveau gouverneur de la banque centrale, Rama Sitanen.
Il y a un contexte spécial.
Il existait un contexte particulier qui justifiait une intervention de la Banque centrale. Cependant, je ne suis pas convaincu qu'investir dans l'immobilier ou les actions fasse partie de ses missions principales. C'est diluer le rôle de la Banque de Maurice. Or, sa principale mission est d'assurer la stabilité des prix, la santé financière du pays, la valeur de la roupie et un développement économique équilibré.
En mai dernier, le FMI a recommandé à la Banque centrale de Maurice de se désengager de la controversée Mauritius Investment Corporation. Pour leur part, les nouveaux dirigeants politiques de Maurice sont discrets au sujet des méthodes peu orthodoxes de l'ancienne administration de Bank of Mauritius, invoquant le secret bancaire et la préservation de l'image de Maurice. Cependant, pour l'économiste Kichong Lee Kwong Win, le diagnostic est clair.
Ce qui a mal tourné, c'est que la Banque de Maurice, qui devrait faire l'expansion monétaire, a utilisé des moyens peu orthodoxes, pas transparents du tout, pour imprimer de l'argent et utiliser cet argent pour favoriser des petits copains et des industries peu viables.
Résultat, les comptes de la Banque de Maurice se sont dégradés et nécessitent, selon les experts, une recapitalisation. Parallèlement, la banque a saisi les autorités compétentes afin d'enquêter sur de potentielles malversations financières commises par l'ancienne administration. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
Au Mozambique, le Conseil constitutionnel doit annoncer aujourd'hui sa décision sur la validité des dernières élections législatives et présidentielles. Une décision attendue par le secteur économique, bousculée depuis le scrutin contesté du 9 octobre. Gaël Lalex.
Principal pays touché par l'instabilité mozambicaine, l'Afrique du Sud voisine et notamment ses producteurs de chrome. Extrait dans le nord-est du pays, c'est par le port de Maputo que ce minerai est exporté. Or, depuis le début de la crise, le poste frontière de l'Ebombo entre les deux pays est régulièrement fermé aux fret. Cette situation a notamment fait l'objet d'une rencontre ministérielle entre les deux pays la semaine passée à Malelane, en Afrique du Sud. Dans un communiqué conjoint, Maputo et Pretoria se sont engagés à sécuriser les infrastructures afin de garantir un minimum de perturbation du commerce régional et transfrontalier. Selon Gavin Kelly, président de l'Association sud-africaine du fret routier, la fermeture de la frontière mozambicaine coûte chaque jour 550 000 dollars à l'économie d'Afrique du Sud. En août, les exportations sud-africaines de chrome dépassaient le 1,5 million de tonnes selon le marché des métaux de Shanghai. Leur niveau annuel avait jusque-là atteint des records, mais la crise mozambicaine risque d'enrayer cette hausse. Autre secteur en difficulté, le sucre de l'Iswatini. Voisin du Mozambique, dépourvu d'accès à la mer, ce petit pays d'Afrique australe utilise le port de Maputo pour ses exportations. Les blocages routiers de l'autre côté de la frontière ont déjà causé de nombreuses perturbations selon l'ESA, l'association du sucre de l'Iswatini. Les producteurs songent à se replier sur le port de Durban, au nord de l'Afrique du Sud, mais cela coûtera plus cher, explique Nontobeko Mabuza, responsable de plaidoyer à l'ESA. Et cela mettra à rude épreuve nos infrastructures de transport, conclut-il.
tutelle. Le sucre représente le deuxième produit d'exportation de l'Iswatini. L'année dernière, 26 000 tonnes ont été envoyées à l'étranger, notamment aux États-Unis, pour 305 millions de dollars.
La chronique des matières premières, signée Gaëlle Lalex. Le rendez-vous des territoires français de l'océan Indien avec Benoît Ferrand. Et à la une aujourd'hui, après le passage du cyclone Chido, la vie qui reprend son cours à Mayotte, mais les Mahorais manquent encore de tout. Bonjour Benoît.
Bonjour. Tous les jours, dans le département 101, il faut trouver de quoi boire, de quoi se nourrir, espérer le retour de l'électricité et des réseaux téléphoniques, et enfin pouvoir faire le plein d'essence. Avec beaucoup de patience, cela va tout de même un petit peu mieux de ce côté-là, notamment à la station de Kaweni. Écoutez ces témoignages recueillis hier matin par Nadia Ali.
Au début, c'était vraiment encombré. Donc là, je vois que ça a l'air de s'alléger. Donc je me suis dit, bon, c'est le bon moment de venir. En plus de ça, il y a une discipline qui s'est vraiment imposée. Donc d'ici midi, comme ça, alors qu'il est 9h, je pense qu'on pourra avoir du carburant.
Alors, depuis ce matin, on s'est réveillé à 4h30 pour quitter Sada à 5h. On arrive à Kaweni à 6h du matin. Donc, il faut faire la queue pour les voitures, la queue pour un bidon, pour les voitures qu'on a laissées à la maison, qu'on ne peut plus déplacer. Et il faut également aller faire la queue pour avoir de l'espèce. Étant donné qu'à beaucoup d'endroits, on ne peut plus payer par carte. Donc, il faut avoir du liquide sur soi. Je me dis, il y a des personnes qui sont devant et qui laissent passer leurs connaissances. Donc, des gens arrivent par derrière. Donc, il y a un vrai manque de civisme. Et j'ai l'impression que c'est juste chacun pour soi. Il n'y a pas de solidarité. Alors que, justement, la situation qu'on a vécue, on devrait tous être solidaires.
Cette station était ouverte au grand public ce dimanche à Mayotte de 7h à 17h. Mayotte où, faut-il vraiment le rappeler, tout ou presque tout est à reconstruire. Pour faciliter le processus, le président de la République a promis une loi spéciale qui va simplifier les procédures et permettre en principe de déroger à certaines règles. Un appel à projets a également été lancé pour des constructions rapides type Algeco. Des solutions qui laissent un peu sceptiques les professionnels de l'architecture. Reportage la première réunion, Ophélie Maraval.
Reconstruire vite, oui, mais pas à n'importe quel prix, alerte Patrick Coulombel, cofondateur d'Architectes de l'Urgence. Il émet des réserves quant aux habitations en kit pour ne pas répéter les erreurs du passé.
À mon avis, ça va coûter une fortune. On va amener de l'habitat ou des constructions qui vont être précaires. À terme, cet habitat qui est pas durable, il va se dégrader. Les gens vont faire des extensions, ils vont se retrouver avec des choses qui sont quelque chose de complètement précaire à quelque chose de précaire étendu. Globalement, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle du bidonville.
Amina Djoumoi, porte-parole du collectif Réma, rappelle, elle, l'urgence de reloger rapidement la population.
On oublie qu'on est encore en saison cyclonique. Mayotte n'a pas le temps d'atteindre.
Des mesures provisoires doivent donc être pensées. Thibaut Fong, architecte charpentier réunionnais, a pu constater la résistance de ces structures agricoles en bambou à Mayotte.
J'ai derrière moi une charpente en bambou qu'on a construite il y a 3 ans. C'est un modèle de serre anticyclonique de 4,50 m par 8 m qui résiste au cyclone. On voit que la charpente est toujours debout. Le toit s'est bien sûr envolé avec le cyclone, mais la charpente a résisté.
Une plante qui présente donc un intérêt par sa résistance, mais aussi sa profusion dans les forêts de l'archipel.
C'est un petit modèle qui est très intéressant parce qu'il peut répondre aujourd'hui, dans l'état d'urgence, à beaucoup de besoins. Premièrement, on a besoin d'abriter des gens de manière temporaire. Ça peut aussi être des petites salles de courte. Ce modèle peut servir aussi de serre agricole temporaire.
La mission aujourd'hui est d'allier rapidité et durabilité. Une mission de taille.
Un dernier mot pour vous dire qu'après le pont aérien, le pont maritime s'intensifie entre La Réunion et Mayotte, les deux départements français de l'océan Indien. Le patrouilleur des affaires maritimes Osiris 2, réquisitionné, a ainsi emporté ce samedi 100 tonnes de matériel à destination de l'île au parfum. Fin de cette édition. Bon début de semaine.
Benoît
Bonne journée.
Ferrand, merci à vous. Dans une minute maintenant, un nouveau journal sur RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous.
Nathalie Amar.
Une semaine après le passage du cyclone Chido, le chantier de la reconstruction de Mayotte s'annonce colossal. Lors de son déplacement dans l'archipel, Emmanuel Macron a fait face à la colère des sinistrés. Que vous inspire la réponse de l'État français? Les mesures annoncées sont-elles à la hauteur de la catastrophe?
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI. Bas les pattes.
Après une première saison sur la place des femmes dans les sociétés africaines dans l'ère post-MeToo, je vous reviens pour une saison 2. Et cette fois-ci, je m'intéresse aux inégalités de genre, aux mécanismes de la domination masculine et plus spécifiquement aux masculinités noires. Alors, retrouvez-moi dans la saison 2 de Bas les pattes.
Bas les pattes, à écouter sur toutes les plateformes de podcast et cette semaine à 17h10 TU sur RFI.